Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La collecte de laine est plus restreinte à Rouen et dans les 6 départements concernés par l'incendie de l'usine classée Seveso. 3 semaines après cet incendie, le préfet de Normandie lève donc ses restrictions. Idem sur l'accès des animaux au pâturage de la région. Réaction de la FNSEA dans un instant. Nous nous pencherons ensuite sur les décisions impossibles de l'Union européenne face à l'offensive turque en Syrie. Les 28 ont bien du mal à prendre des sanctions communes. Hier soir, les États-Unis annonçaient une première série de mesures contre Ankara. Et puis, quels sont les travaux d'Esther Duflo, récompensée avec 2 autres chercheurs par le prix Nobel d'économie hier? Elle cherche à lutter contre la pauvreté et fait ses recherches en Inde. Nous irons à New Delhi. Les producteurs laitiers dans la région de Rouen peuvent donc de nouveau commercialiser leur lait près de 3 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol classée Seveso à Rouen. Le rapport final de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a été publié hier soir et il affirme que les analyses ne montrent pas de dépassement des teneurs maximales en polluants organiques dans le lait. 130 prélèvements ont été réalisés sur une période entre 3 et 11 jours. Jusque-là et en attendant, les éleveurs laitiers ont donc dû jeter leur production, Samuel Monod.
12 millions de litres de lait jetés depuis bientôt 3 semaines. Le bilan est lourd pour les quelques 450 éleveurs laitiers des départements touchés par les retombées de l'incendie. Cette levée des restrictions, c'est donc le soulagement, même si ça arrive un peu tard pour les producteurs. En fin de semaine dernière, le ministre de l'Agriculture avait assuré que la collecte de lait pouvait reprendre. Il n'en a rien été, d'où l'agacement de Lux Messard, vice-président de la FNSEA.
Je pense qu'on a perdu quand même 3 jours, et pendant 3 jours on a acheté du bon lait. On est tous un peu amers vis-à-vis de la mauvaise communication de la part de notre gouvernement.
Reste maintenant la question de l'indemnisation. Un fonds déjà existant doit être abondé par le groupe Lubrizol. Les pertes sont évaluées à 50 millions d'euros pour l'ensemble des secteurs touchés, dont 4 millions pour la filière du lait. Mais selon la FNSEA, l'État a aussi un rôle majeur à jouer.
Il faut qu'on respecte le principe pollueur-payeur. Ce n'est pas à nos impôts de payer. Par contre, l'État qui a joué le principe de précaution doit forcément se porter garant qu'il n'y aura pas un rabotage sur les indemnités, qu'il ne manquera pas à un moment donné les quelques millions d'euros où il devrait faire justement la part des choses. Je pense que c'est aujourd'hui indispensable que toutes les victimes soient indemnisées.
En attendant ces indemnisations, les exploitants bénéficient de certains dispositifs, des prêts à taux zéro auprès de banques agricoles et une avance de trésorerie allouée par la région Normandie pouvant aller jusqu'à 10 000 euros par agriculteur.
Et aujourd'hui, ou demain, l'ANSES doit également rendre son rapport concernant là les légumes et les œufs, avec là encore la possibilité de reprise de leur commercialisation. Le verdict est rendu dans le procès de l'attentat raté contre la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les principales accusées sont condamnées à 20, 25 et 30 années de réclusion. Rachid Kassim, qui aurait imaginé cette attaque, est lui condamné à la prison à perpétuité. Il est présumé mort en Syrie. Ce mardi, un autre procès va occuper l'espace médiatico-judiciaire. 13 jeunes sont accusés d'avoir gravement blessé des forces de l'ordre en octobre 2016. C'était à Viry-Châtillon. Des cocktails Molotov avaient été lancés dans des voitures de policiers. 3 ans après, l'une des victimes enchaîne toujours les opérations et n'a pas repris le travail. En bref encore, nous l'évoquions hier, la ministre de la Santé était auditionnée par la commission parlementaire sur le chlordécone. Agnès Buzyn a dit vouloir un plan plus ambitieux pour répondre à l'urgence, car cet insecticide dangereux a longtemps pollué les sols aux Antilles. Une valse d'appels téléphoniques hier soir à l'Élysée. Emmanuel Macron s'est entretenu à distance avec les présidents irakiens, turcs et américains à propos de l'offensive turque en Syrie. Le chef de l'État français confirme sa position divergente face à Ankara. Il craint une résurgence du groupe État islamique et souhaite également renforcer sa coopération avec Bagdad face à Daesh. Alors qu'aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne préparent des sanctions contre la Turquie, sanctions contre les forages illégaux réalisés par Ankara au large de Chypre. Une sanction finalement à minima par les 28 qui n'ont pas réussi à imposer un embargo sur les ventes d'armes, Marie-Pierre Véraud.
Difficile de maintenir l'unanimité des États européens au-delà d'une condamnation formelle des opérations militaires turques. Ce sont les limites de la diplomatie à 28. L'interdiction totale de vente d'armes à Ankara heurtait notamment le Royaume-Uni, qui a mis en avant le statut d'allié de la Turquie au sein de l'OTAN. Les ministres des Affaires étrangères se sont donc juste engagés, selon le communiqué final, à adopter des positions nationales fermes concernant l'exportation d'armes vers la Turquie. De fait, après l'Allemagne et la France, l'Italie, qui fut le premier fournisseur d'Ankara l'an dernier, a annoncé qu'elle stopperait à son tour toute vente d'armes et de munitions. L'Espagne s'y dit prête, les Pays-Bas, la Finlande ou encore la Suède ont déjà souscrit à un tel embargo. Au final, il prend donc corps. Cela sera-t-il suffisant? C'est demandé la chef de la diplomatie européenne, Mogherini. Nous verrons. Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères a lui oublié toute langue de bois. Comme européen, a-t-il déclaré en marge de la réunion, nous ne sommes pas en mesure d'arrêter ça. Il faut le dire franchement aux gens.
De son côté, notons que l'Américain Donald Trump annonce, lui, des sanctions commerciales à venir contre la Turquie. L'acier pourrait être taxé et 3 ministres turcs sanctionnés. L'offensive turque en Syrie, nous y revenons plus longuement avec le journal des idées de Jacques Munier. Ce sera après ce journal et puis les enjeux internationaux avec Julie Gacon à 6h45 tout à l'heure. Avant cela, sachez que c'est aujourd'hui que les États membres de l'Union européenne sont censés envoyer à Bruxelles leur budget pour l'année prochaine. Et l'Italie est particulièrement surveillé, même si le nouveau gouvernement est désormais pro-européen. Il l'affiche d'ailleurs depuis que Matteo Salvini se retrouve dans l'opposition et ne gouverne donc plus le pays. Une page se tourne en Italie, Bruce de Galzin.
C'était il y a un an et c'était une première. Le budget d'un État membre, l'Italie, était retoqué par la Commission européenne qui lui donnait 3 semaines pour rentrer dans le rang. Le commissaire Pierre Moscovici était chargé de l'affaire. Il affirmait que les Italiens savaient très bien ce qu'ils risquaient, mais insistait sur sa volonté de dialogue. Finalement, l'Italie présentait un budget dans les clous de Bruxelles. Cette année encore, c'est Pierre Moscovici qui donnera son aval. Il recevra à la dernière minute le budget italien, puisqu'un conseil des ministres est prévu à 21h ce soir et le budget doit être présenté avant minuit. Pierre Moscovici, qui pourrait même voir son mandat prolongé si la commission n'est toujours pas en place au 31 octobre. Son successeur désigné, l'Italien Paolo Gentiloni, n'aurait alors rien à dire sur le budget italien. Un budget préparé par un fin connaisseur des rouages de Bruxelles, le nouveau ministre de l'économie Roberto Gualtieri, qui dirigeait jusque-là la commission des finances du Parlement européen. La bonne personne au bon endroit, disait il y a 2 semaines Pierre Moscovici, qui s'inquiétait, mais c'était l'an dernier, de voir des petits Mussolini grandir en pointant du doigt Matteo Salvini.
Un jeune enfant sur 3 dans le monde est mal nourri ou en surpoids. Un constat alarmant fait par l'UNICEF ce matin dans un rapport d'une grande ampleur. Les enfants de moins de 5 ans ne reçoivent pas, pour un tiers d'entre eux, l'alimentation dont ils ont besoin pour bien grandir. Voilà ce qui est écrit dans le rapport. La moitié d'entre eux souffrent d'ailleurs de carences alimentaires par manque de nourriture tout simplement ou bien par manque de fruits et légumes. Elle est la deuxième femme distinguée par ce prix. Esther Duflo s'est vue décerner hier le prix Nobel de l'économie, tout comme 2 autres chercheurs américains. À 46 ans, la franco-américaine est aussi la plus jeune lauréate depuis un demi-siècle. Récompensée donc pour leur travail sur la lutte contre la pauvreté. Esther Duflo, avec son mari d'origine indienne, ont fait leurs recherches en Inde, où leurs travaux ont gagné une certaine influence, Sébastien Farcy.
Abhijit Banerjee et Esther Duflo ont mené des études sur le système scolaire et sanitaire indien. À travers des méthodes innovantes proches des essais cliniques, ils ont déduit que le fait d'offrir des repas gratuits ou plus de livres scolaires aux élèves en difficulté ne les aidait pas énormément, car le système scolaire indien favorisait toujours les meilleurs élèves de ces classes surpeuplées. Ces enfants, disent-ils, ont surtout besoin de programmes d'assistance ciblés, et c'est ce qui a commencé à être mis en place en Inde pour 100 000 enfants. Par contre, dans le domaine de la santé, offrir un repas gratuit aux familles pauvres serait l'un des moyens les plus efficaces d'inciter les familles à faire vacciner leurs enfants. Lors des élections législatives indiennes de mai dernier, Abhijit Banerjee a soutenu le parti d'opposition du Congrès de centre-gauche. Il a été, avec le français Thomas Piketty, à l'origine de leur promesse d'instaurer un revenu minimum garanti dans le pays. Autant dire que le gouvernement nationaliste hindou au pouvoir aujourd'hui a faiblement célébré la consécration de cet économiste né en Inde.
C'était Sébastien Farcy depuis New Delhi pour France Culture. Nous revenons en France métropolitaine maintenant pour quelques mots de la météo de ce mardi. Une météo pluvieuse 6 départements du sud-est sont toujours sous vigilance orage ce matin. La pluie, elle, va toucher tout le pays. Et ce matin, il fait 13 degrés à Brest et à Boulogne-sur-Mer, 15 à Paris, à Bordeaux et à Lyon, 17 degrés à Strasbourg et seulement 20 degrés ce matin à Nice.